Nous continuons avec le dernier roi, le troisième, Joas. 2 Chroniques 24. Et Joas était âgé de 7 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 40 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Sibia de Beersheba. Et Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les jours de Jéhoiada, le sacrificateur. Et Jéhoiada prit 2 femmes pour Joas, et il engendra des fils et des filles. Il arriva après cela que Joas eut à cœur de restaurer la maison de l'Éternel. Ah, mais j'ai pas lu le début. Excusez-moi, j'ai une erreur. Le commencement, c'est au chapitre 22, verset 10. Or, Athalie, mère d'Acasia, vit que son fils était mort. Et elle se leva et extermina toute la semence royale de la maison de Juda. Mais Jéhosheba, fille du roi, prit Joas, fils d'Acasia, et le déroba du milieu des fils du roi qu'on mettait à mort, et le mit, lui et sa nourrice, dans la chambre à coucher. Ainsi, Jéhosheba, fille du roi Joam, femme de Jéhoiada le sacrificateur, le cacha de devant Athalie, car elle était sœur d'Acasia, et Athalie ne le mit pas à mort. Et il fut caché 6 ans auprès d'eux, dans la maison de Dieu. Et Athalie régna sur le pays. Chapitre 23. Et la 7e année de Jéhoiada se fortifia et fit pacte avec les chefs de centaines. Verset 3. Et toute la congrégation fit alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhoiada leur dit, « Voici, le fils du roi règnera selon ce que l'Éternel a dit, touchant les fils de David. » Verset 8. « Et les Lévites et tout Juda, selon tout ce que Jéhoiada le sacrificateur avait commandé, et ils prirent chacun ses hommes, ceux qui entraient le jour du sabbat et ceux qui sortaient le jour du sabbat, car Jéhoiada le sacrificateur n'avait pas renvoyé les classes. Et Jéhoiada le sacrificateur donna aux chefs de centaines des lances, des écus, des boucliers qui avaient appartenu au roi David et qui étaient dans la maison de Dieu. Et ils firent tenir là tout le peuple, chacun sa javeline à la main, depuis le côté droit de la maison jusqu'au côté gauche de la maison, vers l'autel, vers la maison, auprès du roi, tout autour. Et ils firent sortir le fils du roi, et mirent sur lui la couronne et le témoignage, et le firent roi. Et Jéhoiada et ses fils loignirent et dirent, « Vive le roi !» Et Athalie entendit les cris du peuple qui courait et acclamait le roi, et elle entra vers le peuple dans la maison de l'Éternel, et elle regarda, voici le roi se tenait sur son estrade à l'entrée, et les chefs et les trompettes étaient auprès du roi, et tout le peuple du pays se réjouissait et sonnait des trompettes, et les chantres étaient là, avec des instruments de musique, et ceux qui enseignaient à louer l'Éternel. Et Athalie déchira ses vêtements et dit, « Conspiration, conspiration !» Et Jéhoiada, le sacrificateur, fit sortir les chefs de centaines qui étaient préposés sur l'armée et leur dit, « Faites-la sortir en dehors des rangs et que celui qui la suivra soit mis à mort par l'épée. » Car le sacrificateur dit, « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » Et ils lui firent place et elle alla par l'entrée de la porte des chevaux dans la maison du roi et là, ils la mirent à mort. Et Jéhoiada fit alliance entre lui et tout le peuple, et le roi, qu'il serait le peuple de l'Éternel, et tout le peuple entra dans la maison de Baal, et ils démolirent, et ils brisèrent les autels, et ces images, et tuèrent devant l'autel Matan, sacrificateur de Baal. Et Jéhoiada mit les charges de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs des Lévites que David avait établis par classe sur la maison de l'Éternel pour offrir des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse avec joie. Il y avait des cantiques selon les directions de David. Et il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel afin qu'il n'y entrât aucune personne impure en quoi que ce fût. Et il prit les chefs de centaines et les nobles et ceux qui avaient autorité sur le peuple et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône du royaume. Et tout le peuple du pays se réjouit, et la ville fut tranquille, et ils avaient mis à mort Athalie par l'épée. Chapitre 24. Et Joas était âgé de 7 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 40 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Tsibia de Beersheba. Et Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les jours de Jéhoiada le sacrificateur. Et Jéhoiada prit 2 femmes pour Joas, et l'engendra des fils et des filles. Et il arriva après cela que Joas eut à cœur de restaurer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs, les Lévites, et leur dit, « Allez par les villes de Juda et recueillez de l'argent de tout Israël pour réparer la maison de notre Dieu d'année en année et hâter cette affaire. » Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Et le roi appela Jéhoiada, le chef, et leur dit, « Pourquoi n'as-tu pas exigé des Lévites qu'ils apportent de Juda et de Jérusalem le tribut de Moïse, serviteur de l'Éternel, imposé à la congrégation d'Israël pour le temps du témoignage. Car Athalie, cette méchante femme, et ses fils avaient dévasté la maison de l'Éternel et toutes les choses saintes de la maison de l'Éternel, ils les avaient aussi employées pour les Baals. Et le roi commanda, et on fit un coffre. Et on le mit à la porte de la maison de l'Éternel en dehors, et on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel le tribut de Moïse, serviteur de Dieu, imposé à Israël dans le désert, et tous les princes et tout le peuple s'en réjouirent, ils apportèrent l'argent et le jetèrent dans le coffre jusqu'à ce qu'on eût fini. Et il arriva que lorsque c'était le temps d'apporter le coffre au contrôle du roi par la main des Lévites, et qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et l'officier du principal sacrificateur venait vider le coffre et le rapportait et le mettait à sa place. Et il faisait ainsi jour après jour et en recueillit de l'argent en abondance. Et le roi et Jéhoiada le donnèrent à ceux qui faisaient l'ouvrage du service de la maison de l'Éternel, et ceux-ci prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers en fer en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Et ceux qui faisaient l'ouvrage travaillèrent à l'œuvre de restauration. Ce firent par leurs moyens, et rétablirent la maison de Dieu en son état, et la consolidèrent. Et quand ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhoiada le reste de l'argent, et on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et des ustensiles d'or et d'argent. Et on offrit des holocaustes dans la maison de l'Éternel continuellement tous les jours de Jéhoiada. Et Jéhoiada devint vieux et rassasié de jours, et il mourut. Il était âgé de 130 ans quand il mourut. Et on l'enterra dans la ville de David, avec les rois, car il avait fait du bien en Israël, pour Dieu et pour sa maison. Et après la mort de Jéhoiada, les chefs de Juda vinrent et s'inclinèrent devant le roi. Alors le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et servirent les achères, les idoles, les élus de la colère contre Juda et contre Jérusalem, parce qu'ils s'étaient rendus coupables en cela. Et l'Éternel envoya parmi eux pour les ramener à lui des prophètes qui témoignèrent contre eux, mais n'écoutèrent point. Et l'Éternel et l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jéhoiada, le sacrificateur. Et il se tint debout au-dessus du peuple et leur dit « Ainsi dit Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne réussirez point, car vous avez abandonné l'Éternel et vous abandonnera aussi. » Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent avec des pierres par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Et le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jehoiada, père de Zacharie, avait usé envers lui et tua son fils. Et comme il mourait, il dit que l'Éternel regarde et redemande. Il arriva quand l'année fut révolue que l'armée de Syrie monta contre Joas et entra en Juda et Jérusalem. Ils détruisirent d'entre le peuple tous les chefs du peuple et envoyèrent toutes leurs dépouilles au roi de Damas. Car l'armée de Syrie vint avec un petit nombre d'hommes et l'Éternel livra entre leurs mains une très grande armée parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Ainsi, les Syriens firent justice de Joas. Et quand ils l'eurent quitté, or ils l'avaient laissé dans de grandes maladies, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils de Jehoiada, le sacrificateur, et le tua sur son lit, et il mourut. Et on l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans le sépulcre des rois. Ce sont ici ceux qui conspirèrent contre lui, Zabda, fils de Shimba, l'ammonite, et Josabad, fils de Shimrit, le moabite. Et quant à ses fils, et à la grandeur du tribut qui leur fut imposé, et aux constructions de la maison de Dieu, voici ces choses sont écrites dans les commentaires du livre des rois. Et Amatsia, son fils, régna à sa place. Joas a été soustrait in extremis à la cruauté de cette reine Athalie, mère d'Acasia, qui a inspiré la tragédie de Corneille. Il a été enlevé au milieu de ce massacre par ce couple pieux, Jehoiada et sa femme Jehosheba. Et je ne sais pas si on imagine les risques qu'ils ont pris, la difficulté que ce couple a pris, les risques qu'ils ont pris, comme la génération de nos grands-parents qui ont caché des Juifs en 42-43, ils ont pris de grands risques. Je sais que chez mes parents, il y avait un Juif, le fils de Jules Isaac, qui était caché. À un moment donné, il y a eu une inspection des Allemands et il y avait une valise qui était compromettante sur une armoire. À qui allait cette valise? Ça a été chaud. Eh bien, Jehoiada et sa femme, Jehosheba, ont pris de grands risques pour cacher un enfant pendant 6 ans. Un enfant, un nouveau-né, il pleure. Il crie. Puis après, quand il joue, il crie. Comment? Dans la maison de Dieu, mais il peut y avoir des espions, là. Un enfant, ça se cache pas comme ça, hein. Mais ils ont fait un acte de foi extraordinaire, là. Comme les parents de Moïse, qui ont caché Moïse pour soustraire à la méchanceté. Parce que je pense qu'Athalie avait son réseau aussi, hein. C'est un peu comme en Corée, où un Coréen surveille un autre Coréen. C'est pas les gendarmes, c'est chacun. C'est Pi. Et on sent à la lecture que c'est beaucoup plus, même s'il y a des bonnes choses chez Joas, il va y en avoir de bonnes choses, mais c'est plus juste de dire le réveil sous le sacrificateur, Jehoiada et sa femme, parce que c'est eux qui sont la maîtresse pièce de ce réveil. Ils ont caché le petit Joas pendant 7 ans. Et là, j'ouvre une parenthèse qui me tient à cœur parce que c'est beau. On est à l'heure actuelle dans cette période des 7 ans. Et probablement vers la 7e année. Au point de vue prophétique. Nous, les chrétiens, nous avons un secret. Comme ce couple. Nous savons ce secret que le roi de Dieu, mon roi, j'ai oint mon roi sur Sion, psaume 2, le roi de Dieu est caché dans le ciel et dans l'affection des siens. Ça, c'est notre secret. Le monde ne sait pas. Et ce roi, il est sur le point d'être révélé. Révélare, en latin, et apocalypsis, en grec. Apocalypse. C'est l'action d'ôter le voile. S'il y a un voile, s'il y a un tapis sur une table, on ne sait pas la couleur de la table. Et si on tire le tapis, on révèle la table. Certes, dans l'Apocalypse, tout est révélé. Au premier chapitre, c'est le juge. Chapitre 2 et 3, c'est l'histoire de l'Église, dans son ensemble, qui est révélée. Chapitre 4 et 5, un coin du voile de l'éternité, dans une période transitoire qui nous est révélée. Chapitre 6 à 19, les événements du gouvernement du monde nous ont révélés. Chapitre 19, les noces de l'agneau. Chapitre 21, l'Église pendant le règne. Tout est révélé dans l'Apocalypse. Mais avant tout, c'est la révélation de Jésus-Christ. Le premier verset, Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ va être révélé au monde. Comme le petit Joas allait après 7 ans de caché, il allait être révélé à toute la nation. Et Jésus va apparaître dans sa gloire. Il va descendre, il va, après avoir pris l'Église précédemment, il va descendre, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, la montagne des Oliviers va se fendre par le milieu, et il va établir son règne. Et les nations seront étonnées, Isaïe 42. Elles verront ce qu'elles n'avaient jamais vu. Elles seront frappées d'étonnement. Et André Chouraki, le roi de l'interprétation littérale, étonnement, il dit frappé de tonnerre. Parce que le mot étonnement a deux significations, soit l'admiration, soit frappé de tonnerre, littéralement, ou commotionné. Les nations impies, quand ils verront Jésus, diront quoi? Jésus de Nazareth, le maître du monde? Eh oui. Ils seront commotionnés. Et pour Israël, tout œil le verra et ceux qui l'ont percé. Et se lamenteront. Et à ce moment-là, lors de la révélation de Jésus-Christ dans sa royauté terrestre pour établir son règne, le royaume d'Athalie va trembler et s'effondrer. Le royaume du monde de Satan et de tout le système qu'il a fait dans le monde va s'écrouler. Il y a un passage dans l'Apocalypse, les villes des nations s'écroulèrent. Et Dieu va manifester son Christ pendant 1000 ans sur la terre. Ça, c'est son propos, c'est son plan. Et c'est ce que nous avons en germe, enfin, en figure, dans l'établissement de Joas, dans la 7e année, où on crie « Vive le roi !» Joas, j'aime bien cette histoire, dans un sujet beaucoup plus vaste, qui a comme titre « Quand le plan de Dieu tient un fil ». Et ça, ça va de Genèse, de la Genèse à l'Évangile, à la croix. Déjà, Dieu a fait une promesse, La semence de la femme te brisera la tête, toi tu lui briseras le talon. Satan a entendu cette promesse. Et il va essayer de rompre la chaîne du Messie à toutes sortes d'étapes, parce que le but de Satan, c'est d'empêcher le projet divin dont nous sommes partie prenante. Et nous ne sommes pas le centre du projet divin. Le centre du projet divin, c'est la gloire de Jésus. Dieu veut la gloire de Jésus. Et nous sommes inclus à cette gloire. Et Satan va faire au cours des siècles tous ses efforts pour rompre cette chaîne du Messie, pour qu'il ne naisse pas à Bethléem, que la semence de la femme ne naisse pas à Bethléem. Parce qu'il a entendu sa sentence, elle te brisera la tête. Donc ça ne lui fait pas plaisir. Et la première fois qu'il essaie de rompre la chaîne, c'est quand il tue Abel. Caïn est une image de l'antichrist, antichrist contre Christ, qui est vu en Abel. Mais Dieu donne une autre semence au lieu d'Abel, Seth. Un peu plus loin, il corrompt la semence des hommes, il pousse les hommes à la rébellion, à la violence et à la corruption généralisée. Dieu est obligé d'y revenir, parce que la tactique du diable, c'est de pousser les hommes dans le mal et de mettre en branle la justice divine. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas supporter le péché. Donc, le jugement, c'est le déluge. Mais Dieu, un petit maillon, conserve Noé, qui trouve grâce. Satan ne peut pas entièrement briser la chaîne, mais il brise tout sauf un maillon, Noé. Un peu plus loin, à la tour de Babel, il pousse les hommes à l'idolâtrie pour la première fois dans l'histoire du monde, à l'orgueil. Et Dieu est obligé de descendre et confondre et disperser les hommes. Mais le petit maillon, c'est Abraham, qui tire de l'idolâtrie pour être son ami, mon ami. Et nous arrivons à notre petit Joas, le propos divin dans la tribu de Juda, où doit naître le Messie, tient un fil, c'est le petit Joas. Quand le propos de Dieu tient un fil, et on pourrait aller plus loin quand Juda et Benjamin sont déportés à Babylone, il semble que c'est le projet de Dieu capote. Non, non. Dieu tient toujours ce fil, ce petit fil. Vous savez que dans une corde, il y a composé de plusieurs torons, 4 ou 5 torons. Et il peut y avoir un frottement de telle manière que ça use toute la corde, mais ça tient par un fil. Et ce petit fil, c'est Dieu qui le tient. Il ne peut pas y avoir une rupture totale. Un petit contingent remonte de la captivité. Quand Jésus arrive sur la scène, alors là, Satan attaque de nouveau et essaie de faire périr alors directement Jésus par Hérode. Mais Jésus s'enfuit en Égypte. Il l'attaque encore au désert. Mais Jésus triomphe de Satan. Et à la croix, il ligue tous les hommes contre Jésus et le crucifie. Il semble qu'il a triomphé. Il semble qu'il a triomphé. Enfin, j'ai pu le mettre à mort. Et Jésus reste pendant 3 jours dans la tombe. J'aime une petite prédication très originale que je vous recommande du père Boulard, qui a comme titre le duel des géants sur Internet. Il montre Jésus dans la mort et dans le domaine de Satan, dans sa forteresse. Jésus est prisonnier de la forteresse de Satan. Et la mort, il y a un verset d'Ésaïe qui dit, il ne renvoie jamais ses prisonniers. Non, non. quand il les a, il les garde. Et là, la mort, Satan, n'a jamais eu quelqu'un d'aussi illustre que Jésus. Et il entend bien le garder. Et le troisième jour, il lui échappe. Et là, c'est une défaite complète pour Satan. Complète. C'est pour ça qu'il a, fait aussi circuler un mensonge. Non. Dieu est au-dessus de tout. Satan se déchaîne encore aujourd'hui dans le monde, mais Dieu poursuit ses plans. On ne sait pas trop comment. Hein. Ayons confiance. Dieu est le sage architecte. Il a pensé ce projet dans les profondeurs de l'éternité et il va l'accomplir jusqu'au bout. Envers et contre tout, et envers et contre tous, et contre la puissance de Satan qui... Oui, c'est Serge Tarasenko qui dit que Satan est l'anti-dessein de Dieu. Ça, c'est très important. Ça. Anti-dessein. Il est contre le dessein de Dieu, et contre Dieu, et contre nous aussi par rapport... Puisque nous faisons partie de ce plan. Alors, Joas, maintenant il est roi. Il s'assit sur le trône du royaume. Verset 21, et tout le peuple se réjouit et la ville fut tranquille. On avait mis à mort Athalie par l'épée. C'est une image du royaume, d'ailleurs tous les rois auraient dû être une image de Jésus dans son règne. C'était la pensée de Dieu. Ils en ont donné plus ou moins un pâle reflet. Parfois très pâle. Et au chapitre 24, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les jours de Jéhoiada le sacrificateur. Et au verset 4, il arriva après cela que Joas eut à cœur de restaurer la maison de l'Éternel. C'est beau cette expression. Il eut à cœur de restaurer la maison de l'Éternel. Peut-être quelqu'un dire, ça c'est un peu notre vocabulaire, avoir à cœur. C'est un peu bateau. Non, je pense pas, je méprise pas du tout cette expression parce qu'elle est dans la parole. David, il voulait bâtir le temple. Et Dieu lui a dit non, c'est pas toi qui bâtiras le temple, c'est ton fils Salomon. Mais tu as bien fait de l'avoir eu à cœur. Vous voyez? Des fois, nous voulons faire des services et puis Dieu nous dit non, c'est pas ton affaire, je vais le donner à un autre. Mais tu as quand même bien fait de l'avoir eu à cœur. Alors, la définition du mot cœur, bon, il y en a plusieurs, mais moi j'aime bien quand même dire c'est le siège des affections, et les affections pour Dieu et pour l'Assemblée, restaurer, parce que parmi nous il y a eu aussi beaucoup de dégâts, beaucoup de brèches, et si nous avons à cœur de restaurer, c'est pas une petite affaire, c'est une grande entreprise, ça demande beaucoup de prières et des fois on désespère un peu de que les brèches soient restaurées, mais bon, il faut pas désespérer. Non, parce que Dieu peut agir dans les cœurs. Oui, il a eu à cœur de restaurer la maison de l'Éternel qui avait été dévastée par Athalie. Et là, il rassemble ses chefs parce qu'on peut pas agir tout seul pour restaurer une assemblée qui a été endommagée. Il faut qu'on se mette ensemble pour pousser un peu la charrette qui s'est embourbée. On peut pas la désembourber tout seul. Il faut que la piété de chacun, faut qu'on laisse de côté nos différences pour voir ce qui nous unit. Regarder ensemble au Seigneur. C'est peut-être comme ça qu'on va réparer le mieux. C'est pas en se regardant les uns les autres. Comme disait Saint-Exupéry, s'aimer, c'est pas se regarder les uns les autres, c'est regarder dans le même but. C'est pas analyser le caractère des frères et tout ça. Non, c'est ensemble au Seigneur. Et donc il a fait faire un coffre. Et puis on voit que les temps de réveil, c'est aussi des temps de générosité matérielle, parce qu'il faut de l'argent aussi. parfois pour restaurer la maison de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, aussi de l'argent. La générosité de Dieu, la générosité des croyants, c'est aussi un signe du réveil. Ouais. Mais il y a quand même une petite alarme qui sonne un peu, qui est prémonitoire. Quand il est dit, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les jours de Jéhoiada le sacrificateur. On voit que cet homme de Dieu, il a œuvré, il a dit une belle chose. Jéhoiada fut vieux et rassasié de jours et il mourut, il était âgé de 130 ans, il mourut. Et on l'enterra dans la ville de David. Il avait fait du bien en Israël et pour Dieu et pour sa maison. C'est un couple pieux qui a œuvré pour Dieu, ensemble. Ils ont pris des risques ensemble. Ils ont accompagné le roi. Ils ont été des bons influenceurs pour l'œuvre de la restauration de la maison de Dieu. Ils la consolidèrent et ils offraient des holocaustes aussi. Les temps de réveil sont des temps où on loue Dieu, où on a des cultes heureux. Il avait fait du bien en Israël et pour Dieu et pour sa maison. Et là, au verset 17 et dans la suite, cette prémonition va connaître sa réalisation. Après la mort de Jéhoiada, ils abandonnèrent la maison de l'Éternel. L'Éternel envoya parmi eux pour les ramener des prophètes qui témoignèrent contre eux et n'écoutèrent pas. Jéhoiada, Joas, après la mort de Jéhoiada, me fait penser à un arboriculteur qui, plutôt à un arbre, dont l'arboriculteur a enlevé le tuteur. Normalement, on laisse pas un tuteur 10 ou 20 ans. Maintenant, au début, il avait besoin d'un tuteur, ce petit arbre, gros comme mon doigt. Mais après, maintenant, il est gros, il a 5 cm de diamètre. Normalement, il a plus besoin de tuteur. Le tuteur est enlevé. Jéhoiada, c'est un tuteur pour Joas. Et voilà que ça se passe pas bien sans tuteur. Et là, il y a une leçon importante parce que les frères âgés dans notre assemblée locale, ils seront pas toujours là. Ils seront pas toujours là. Et ils n'ont pas été toujours là. Ceux qui nous ont précédés, Et c'est la responsabilité retombe sur nos épaules. On en a vu des frères et des sœurs qui ont été recueillis auprès du Seigneur. Quand ils étaient là, on vivait gentiment à leur ombre, on les écoutait. Et on sentait qu'ils étaient solides, comme Jéhoiada et sa femme. Des frères et des sœurs, des Jéhoiada. Mais ils sont plus là. Lors de l'enterrement d'un serviteur de Dieu, celui qui présentait la parole a dit « Un homme de Dieu nous a quittés, mais le Dieu de cet homme nous reste. » C'est ça. C'est ça. Et bien ça, il faut le garder dans notre cœur. On s'appuie, tant qu'il y a des frères aînés, sages et pieux, frères et sœurs, on s'appuie un peu sur eux. C'est un peu des tuteurs, oui, mais il faut bien se dire que on aura continué peut-être sans eux. Et est-ce qu'on va être des Joas qui s'éloignent de Dieu? Ou alors on a une constitution spirituelle qui nous permet de prendre nos responsabilités? Il faut que les jeunes frères de 40 ans prennent leurs responsabilités. Il faut que les aînés les encouragent aussi à prendre leurs responsabilités, leur laisse de la place, parce qu'ils ne seront pas toujours là. La fin de Joas est lamentable, est triste. Non seulement il n'écoute pas le prophète, Dieu lui a parlé, pour redresser la situation. C'est comme là, l'arbre qui a été un peu secoué par la tempête, après que l'arboriculteur a enlevé le tuteur, bon, il engraisse le terrain, il veut fortifier cet arbre qui a été un peu malmené par la tempête. Mais bon, il n'écoute pas Joas. Comme Asa, il n'écoute pas le prophète. Si on n'écoute pas la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir d'amélioration à notre état, individuel et collectif. Et même, alors il y en a qui tuent son fils sur ordre de Joas. Nous avons bien lu, hein. Et Joas est lapidaire avec des pierres par ordre du roi dans la maison de l'Éternel. Et le roi Josias ne se souvient pas de la bonté de Jéhoiada, père de Zacharie, qui il avait usé envers lui et tua son fils. En Matthieu 23, il semble que le Seigneur fait référence à la chose, Matthieu 23, 35, quoique les noms soient pas exactement les mêmes, 23, 35, en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Ce sang, il va être redemandé à ce peuple. Joas termine sa vie dans de grandes douleurs. Dieu juge ce roi qui s'est détourné de lui. Là encore, des zones lumineuses qui nous ont encouragés et des zones d'ombre qui nous avertissent. C'était le réveil sous Jéhoiada, pour être plus juste, et Jéhoshéba, sa femme. Je vous remercie de votre attention.
Alors, on a demandé à Lucien, juste avant qu'on se sépare, de faire un petit message final. Je propose qu'on laisse la parole à Lucien.
J'aimerais terminer cette journée, j'espère béni, en vous racontant deux histoires devant cette maison éclairée où on veille. La première, c'est celle que racontait un frère que vous avez bien connu dans le sud-ouest, Pierre-Étienne Fusier, vétérinaire. Il racontait que parfois il était appelé en pleine nuit pour un vélage difficile ou autre urgence dans une ferme. Il est minuit ou 1h du matin. Il part dans la campagne et il ne sait pas trop où est la ferme. Bon, elle doit être au coin d'un champ de maïs, mais comme là-bas, des champs de maïs, il y a presque que ça, il n'y a pas beaucoup de repères. Et il circule pendant un quart d'heure, 20 minutes dans la campagne et tout à coup, il voit une ferme éclairée. Là, on veille, on l'attend. Et le vétérinaire, quand il y a une urgence, c'est un petit peu un sauveur. Hein. C'est quelqu'un qui va nous tirer d'affaire. Et nous aussi, nous attendons Jésus comme sauveur. Sauveur de nos corps, hein, parce que nos âmes et nos esprits sont sauvés. Dans Philippiens 3. Nous attendons Jésus comme sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité de son corps de gloire par le pouvoir, et dans l'original grec, la dynamite dynamitos, de s'assujettir même toute chose. Et très probablement, on n'est pas tellement hésitant à dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent nous tenir réveillés comme l'attente de Jésus, si vraiment elle était ardente en chacun de nous. Comme là, dans cette maison, on est dans la difficulté, on attend cet homme qui va nous délivrer, nous tirer d'affaire. Enfin, pour Jésus, c'est plus que nous délivrer de ce monde, c'est nous unir à lui, d'où l'autre histoire, dans laquelle nous allons retrouver la maison éclairée. Je ne sais pas si nous sommes tous au courant, nous connaissons le mariage juif. Ils ne sont pas du tout comme nos mariages. Et c'est intéressant de le savoir quand même, parce que le mariage juif, la procédure, c'est de Genèse 2, où le couple est esquissé, les couples des patriarches, les couples de David, bien sûr le cantique des cantiques, le psaume 45, le roi désire à ta beauté. Dans Isaïe, le fiancé se réjouit à propos de sa fiancée. Dans Osée, dans Malachie, dans les évangiles, ce qu'on a lu, les vierges sages et les vierges folles. Dans Jean 14. Vous connaissez tous Jean 14, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui disent « Ah ben oui, dans Jean 14, il est parlé du mariage. » Pas sûr. Éphésiens 5, 1 Corinthiens 7, Apocalypse 19, les noces de l'agneau, Apocalypse 21, la femme de l'agneau, enfin, le mariage juif. C'est toute l'écriture. Comment ça se passe? En plusieurs étapes. La première étape, c'est autour de la fontaine où les femmes viennent puiser de l'eau. Et elles discutent ensemble. Il y en a une qui a un fils à marier et l'autre une fille à marier. Et elles discutent entre elles sur l'éventualité de l'union de leurs deux familles. Première étape. Deuxième étape, ce sont les pères qui se rencontrent. Et l'un d'eux a une coupe de vin à la main. Il en boit et il donne la coupe à l'autre. Et si l'autre père boit à la coupe, ça veut dire qu'il accepte l'union de leurs deux familles. C'est la coupe de la nouvelle alliance de leurs deux familles. Troisième étape, les jeunes gens se rencontrent. Et là, idem, le jeune homme a une coupe à la main, il y boit et donne la coupe à la jeune fille. Elle est libre de la prendre ou de la refuser. En Jérémie 25, il est parlé de ceux qui refuse de boire à la coupe. Elle est libre. Si elle accepte de boire à la coupe, ça veut dire qu'elle accepte de devenir l'épouse de cet homme. Elle a bu à la coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance de ces deux personnes. Vous avez déjà compris. Mais ce jeune homme là, qui donne la coupe, qui a bu et qui donne la coupe à cette jeune fille, il n'a rien prouvé. Non, il dit qu'il l'aime, mais en fait, il n'a rien prouvé. Ça viendra peut-être un jour, mais pour le moment, rien. Tandis que, quand le dimanche matin, Jésus nous tend cette coupe, dans laquelle il y a pas son sang, mais le symbole de son sang, de sa mort, du prix payé, lui, il a tout prouvé. Et avec quelle émotion, avec quelle adoration, quelle reconnaissance profonde nous devrions boire à cette coupe de la nouvelle alliance en son sang. Parce que lui, il a payé le prix fort, sa mort. Le jeune homme n'a rien prouvé. À partir de ce moment-là, le jeune homme a un an pour aller préparer la maison qui va abriter leurs premiers amours. Et au Moyen-Orient, cette maison, c'est une extension de la maison du père. Ce que je déconseille absolument, mais absolument, à tous les jeunes, pour avoir fait des expériences amères. Mais c'est comme ça. C'est l'extension de la maison du père. Il y a un proverbe belge qui dit « Il ne faut jamais voir fumer la cheminée de ses beaux-parents ». C'est la sagesse populaire qui n'est pas tout à fait mal. Et le jeune homme, il va partir pour préparer cette maison. Et avant de se séparer de sa fiancée, fiançailles, c'est fort chez les Juifs, hein, c'est presque le mariage, sauf la relation sexuelle. C'est un contrat solide. Avant de partir, il lui dit, tu crois dans mon père, crois aussi en moi. Dans la maison de mon père, il a plusieurs demeures. S'il était autrement, je te l'aurais dit. Je m'en vais et je vais te préparer une place. Si je m'en vais, que je te prépare une place, je reviendrai et je te prendrai auprès de moi. Ce langage n'a pas surpris les disciples, hein? Non, non. Bon, l'apôtre Pierre, il était marié, les autres, je ne sais pas. Il était marié. Mais l'apôtre Pierre, il avait dû dire exactement les mêmes paroles à une jeune fille quelques années avant. Non, ça ne les a pas surpris. Vous voyez le mariage dans Jean 14? Moi, j'ai découvert un jour. Et pendant toute une année, cette jeune fille, elle va repasser dans son cœur ces paroles comme nous les repassons, comme nous repassons Jean 14 dans nos esprits. Elle dit, il a bien dit, je reviendrai, je te prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, tu y sois aussi. Il a bien dit ça. Et cette jeune fille, elle compte sur la fidélité de ce jeune homme. Et nous comptons sur la fidélité de Jésus qui a dit ces paroles. Parce que s'il n'était pas fidèle, et ce jeune homme, s'il n'était pas fidèle, elle attendrait en vain. Elle attend toute une année dans la maison de son père. Et pour que le fiancé voit, que reconnaisse la maison dans le village, elle doit mettre des lampes à huile sur le bord de la fenêtre. Il faut que la maison soit éclairée. Et elle attend. Et à mesure que l'année se déroule, plus elle arrive à la fin de l'année, plus son attente est ardente. Alors je ne sais pas, moi il faudrait, enfin je me souviens bien, en tant que fiancé, après 15 mois d'attente, on aspirait à être ensemble. Mais il faudrait interroger nos épouses si elles ont bien dormi les quelques nuits avant le mariage. Je pense qu'il y avait des interruptions, elles veillaient, elles étaient là dans l'attente. Alors cette jeune fille, dans la maison de son père, elle a tout préparé, sa robe de noces, tout son trousseau, tout est prêt. Sa femme s'est préparée, Apocalypse 19. Il lui a été donné. Et un soir, il est tard, parce que le fiancé, il vient toujours la nuit, en Orient. Toujours la nuit. L'époux divin, il va venir dans la nuit de ce monde. La nuit, c'est toujours le péché, le domaine de Satan. Il vient la nuit. Et il est tard, le soir. Il y a encore des gens dans la rue. Et tout à coup, les gens qui sont dans la rue, ils voient un cortège avec des flambeaux et des torches au loin. Et ils se mettent à pousser les cris, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, vite, la fiancée, aidée de ses jeunes filles, elle revêt sa robe de noces, mais tout était prêt. Elle met ses atours, elle se parfume, ils prennent les torches, ils sortent dans la rue, et les deux cortèges vont l'un vers l'autre. Nous irons à sa rencontre en l'air. Il vient sur les nuées et nous allons à sa rencontre en l'air. Ça sera la rencontre suprême. Quel moment pour la jeune fille, mais quel moment pour ta sainte assemblée quand tu l'introduiras dans les célestes lieux, dans cette suprême rencontre. L'Église entière, les morts ressusciteront, les vivants seront transformés et nous irons tous à sa rencontre en l'air. Les deux cortèges se rassemblent pour n'en faire qu'un et ils vont ensuite à la maison du Père. Jésus va nous introduire dans les plusieurs demeures qu'il nous a préparées dans la maison du Père. Ce sont des images de la terre pour nous faire comprendre, sans ces images, mais qu'est-ce que nous comprendrions de ce monde spirituel ? Le fiancé, la fiancée, l'époux, l'épouse, le père, le fils, tout ça, ces images empruntées à la terre pour nous faire comprendre. Ce sont des images précieuses que nous chérissons, que nous les vivons, nous les avons vécues, pour nous aider à comprendre le monde spirituel, la beauté du monde spirituel. Et là, dans la maison du Père, arrivés, les deux cortèges, l'époux et l'épouse, ou plutôt le fiancé et la fiancée, rentrent dans la chambre nuptiale. Et là, ils consommaient le mariage dans l'acte sexuel. Et après, l'époux sort de la chambre nuptiale, somme 19, comme le soleil, radieux. Enfin, il est marié. Il a une épouse. Et là, à partir de ce moment-là, la fête, les noces, commencent pour 7 jours. Un temps complet. Les noces de l'agneau. Réjouissez-vous et donnez du gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Quel moment béni qu'est là devant nous. Encore une fois, mettons-nous à la place de cette jeune fille. Qu'est-ce qui peut la tenir éveillée comme l'attente de celui qui a dit « Je reviendrai ». Qu'est-ce qui peut nous tenir réveillés? Probablement peu de choses, autant que l'attente de celui qui nous a dit « Je reviendrai » et il sera fidèle à cette promesse qu'il nous a faite. Nous attendons cette suprême rencontre avec notre Seigneur Jésus sur la nuée. Nous pourrions terminer en chantant debout le 180 des hymnes, je crois. Wow.
221.
Nous t'aimons, viens à nous.